Il est midi et demi, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1, le journal de la mi-journée. C'est jusqu'à 13h et avec vous Fabienne Lemoyle. Bonjour Fabienne.
Bonjour Marlène, bonjour à tous.
Les gens restent tous dans leur maison, ça fait un peu désert. Je ne sais pas comment vous dire, c'est la psychose.
Au moins 100 cas de coronavirus dénombrés en Italie, la grande majorité dans le nord du pays. Les mesures pour faire barrière au virus se multiplient. 11 villes ont été placées en quarantaine. Nous verrons avec Marion Gauthier ce que cela veut dire concrètement. En France, le ministre de la Santé dit qu'il se prépare à une possible épidémie avec la montée en puissance de laboratoires pour détecter les nouveaux cas. Nous serons en ligne dans un instant avec Arnaud Fontanet, directeur du département de santé globale à l'Institut Pasteur. Les municipales à Paris, et pas question pour Cédric Villani de se désister en faveur d'Agnès Buzyn au premier tour.
Il n'y a pas de rapprochement de premier tour, bien évidemment.
Mais de deuxième tour, pourquoi pas?
Et pour le deuxième tour, le moment n'est pas venu.
Cédric Villani qui était l'invité du grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. Toujours dans le journal de la mi-journée, Bernie Sanders qui remporte une nouvelle primaire démocrate. C'était cette nuit au Nevada. La colère du médecin humanitaire Raphaël Pitti face à la catastrophe humanitaire dans la région d'Idleb en Syrie. Il est mon invité. Le journal des sports avec la victoire du 15 de France face au Pays de Galles, du jamais vu depuis 10 ans. Enfin la météo. Attention au coup de vent attendu sur la côte d'Opale.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Au moins 100 cas de personnes infectées par le coronavirus. Dernier décompte du nombre de cas en Italie qui fait de ce pays le pays le plus touché par l'épidémie en Europe. Du coup, Marion Gauthier, les mesures notamment de villes placées en quarantaine se multiplient pour faire barrière à la propagation du virus.
Oui, le pays est d'ailleurs le premier à mettre des zones en quarantaine. Cela représente environ 52 000 personnes confinées en Lombardie et en Vénétie où habite Eduardo. Au lieu des défilés du carnaval, c'est la police qui s'y les rues de son village. À Vaux et Uganeo, une dizaine de cas de coronavirus a été identifié. Les commerces, les lieux publics, tout est fermé.
Le décret est appliqué depuis ce matin. Donc pour le moment, nous ne savons pas quoi en penser. Les gens restent tous dans leur maison, ça fait un peu désert. Je ne sais pas comment vous dire, c'est la psychose.
Et personne ne va pouvoir aller au travail, souligne ce restaurateur inquiet. Ceux qui entrent ou sortent des zones circonscrites risquent jusqu'à 3 mois de prison. Le Premier ministre italien Giuseppe Conte pourrait même mobiliser l'armée pour surveiller les points de contrôle.
Nous sommes en ligne avec Arnaud Fontanet, directeur du département de santé globale à l'Institut Pasteur. Bonjour.
Bonjour.
Une première question, Arnaud Fontanet. Est-ce que les Italiens en font trop?
Alors, ce qui est frappant, c'est la rapidité avec laquelle le bilan évolue d'heure en heure, hein, puisque ce matin, on avait 74 personnes diagnostiquées. On est à plus de 100 aujourd'hui, maintenant, à midi. Et non, je crois qu'ils sont dans une phase d'endiguement. Ils essayent de freiner la progression de ce foyer qui est important, évidemment, et pour éviter sa propagation à d'autres régions d'Italie. L'efficacité de ces mesures va vraiment dépendre du bilan final. Combien de personnes sont déjà infectées, puisqu'on voit que ce bilan évolue d'heure en heure, et il n'y en a-t-il pas déjà dans d'autres qui sont partis dans d'autres régions d'Italie? Donc c'est... On est dans une phase d'observation pour l'instant. Je crois que voilà, il fallait prendre ces mesures dans un premier temps, faire un état des lieux sur la progression des diagnostics au fur et à mesure que les cas vont se révéler. Et l'efficacité des mesures dépendra vraiment de est-ce qu'il y en a déjà ailleurs ou pas encore.
Est-ce qu'on est rentré dans une nouvelle phase de cette épidémie qu'on voyait concentrée pour l'instant effectivement dans le sud-est asiatique et sur ce bateau aussi au Japon?
Alors, ce qu'on a vu dans la semaine qui vient de s'écouler, c'est que plusieurs pays d'Asie sont passés en phase qu'on appelle de transmission communautaire, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à relier les patients avec soit un voyage récent en Chine, soit un contact avec une personne infectée. Ça veut dire que le virus circule en population. Alors, ça reste des chiffres qui sont quelques centaines, hein, mais qui évoluent et qui traduisent que l'épidémie est de plus en plus difficile à contrôler. Là, je parle de Singapour, je parle de la Corée du Sud, du Japon, peut-être Thaïlande et Vietnam où on a moins de retours sur les chiffres. Et l'inquiétude, c'est que ces foyers qui sont en train de se constituer vont être des sources d'exportation vers l'Europe, les États-Unis. Et donc, on doit s'attendre à des situations identiques à celles qui a été décrite pour l'Italie, tout en sachant que le plus tôt on arrivera à détecter, le plus facile il sera possible de circonscrire ces foyers épidémiques, comme ça avait pu être le cas, par exemple, pour l'épisode des contamines il y a quelques semaines en France.
Une dernière question, justement, sur la France. Olivier Véran dit ce matin, le ministre de la Santé, nous préparons à une épidémie. Faut-il s'inquiéter en France? Faut-il prendre des mesures particulières?
Alors, je crois qu'on passe un état de vigilance renforcée, hein, parce qu'on se rend compte maintenant justement que la multiplicité des foyers à l'étranger qui sont susceptibles d'essaimer vers la France rend le risque beaucoup plus important. On a vu aussi récemment en Iran, hein, qu'il y a eu un foyer important où il y a déjà un patient qui est parti, qui a été diagnostiqué au Liban, qui venait d'Iran, un autre au Canada. Donc voilà, c'est une nouvelle phase de cette période épidémique et on passe certainement en vigilance renforcée.
Merci beaucoup Arnaud Fontanet, directeur du département de santé globale à l'Institut Pasteur, d'avoir été avec nous ce midi pour décrypter cette nouvelle phase, vous le dites effectivement, de cette épidémie de coronavirus.
Europe 1, midi 36, la suite du journal Fabienne Lemoelle.
Et cela fait une semaine maintenant qu'Agnès Buzyn fait campagne à Paris. Dernier sondage IFOP paru dans le journal du dimanche ce matin où elle est créditée de 19% des voix. Troisième derrière Anne Hidalgo, toujours en tête à 24%. Et Rachida Dati, deuxième à 22%. Cédric Villani, lui, recueille 9% des intentions de vote. Et vous allez l'entendre ce matin sur Europe 1. Il a bien redit qu'il n'avait pas l'intention de se rallier à Agnès Buzyn au premier tour.
Il n'y a pas de rapprochement de premier tour, bien évidemment.
Mais de deuxième tour, pourquoi pas?
Et pour le deuxième tour, le moment n'est pas venu. Pour l'instant, je suis ouvert, je suis à l'écoute, comme toujours, un homme de discussion. Mais ce qui m'importe ici, c'est de mettre en œuvre le projet, les idées, et de faire valoir les idées du programme. Et une discussion ne pouvait s'envisager qu'en commençant par le fond. Et c'est ce que j'ai dit dès le début. Il faut discuter programme. Qu'est-ce que nous voulons les uns et les autres? Le programme d'Agnès Buzyn, j'en ai vu les principales lignes dans le journal du dimanche ce matin et j'ai retenu deux priorités, sécurité et propreté. Moi, je vois un programme axé sur sécurité et propreté, un programme qui, de toute évidence, parle à la droite.
Cédric Villani qui était l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Et notez que l'événement municipal à Paris, ça se passe sur Europe 1. Agnès Buzyn sera l'invité de Sonia Mabrouk demain à 8h15 dans la matinale de Mathieu Béliard. Mardi, ce sera au tour d'Anne Hidalgo et mercredi de Rachida Dati. Emmanuel Macron n'aura pas battu son record de l'an passé au Salon de l'agriculture hier. 13 heures à arpenter les allées du Salon contre 14 il y a un an. Pas de politique attendue a priori au Salon aujourd'hui. Vous êtes sur place pour Europe 1. Jean-Jacques Héry, c'est plutôt la journée où l'on vient en famille pour faire ses courses pour le déjeuner.
En même temps, il faut dire que c'est difficile de résister à la tentation. Et ce, dès que l'on pose un pied dans le pavillon 3, saveur du monde.
Allez, la tome de Savoie, c'est parti. Ce sont des morceaux dedans, hein. C'est pas de l'extrait.
Ça y est, vous faites vos courses pour ce midi, madame?
Oui, j'y compte bien. Ouais.
C'est pour préparer l'apéro de ce midi que madame prépare ses saucissons.
Et sur beaucoup de tables parisiennes, ce midi, le repas dominical sera sans doute un peu plus sympa que d'habitude. AOP, Océan Pagaille, ça va changer du simple et basique poulet frites. Et puis pour certains, on voit déjà beaucoup plus loin que ce midi, comme Françoise croisée tout à l'heure avec 20 kilos de victuailles dans les bras.
Je vais continuer pendant 2-3 jours à ravitailler. Aujourd'hui, c'est les trucs frais. Demain, ça va être la boisson. Alors la charcuterie vient d'Alsace. J'ai des gâteaux bretons. Les spécialités du Nord.
C'est quoi?
Alors attendez, le Nord.
Vous savez même plus.
J'ai du maroilles, j'ai du Cantal, du Pays Basque aussi. Parce que j'aime bien les bons produits, c'est tout simplement, voilà. C'est de la qualité, c'est tout ça.
Ce frémissement dominical, Hubert, fromager du Tarn, le connaît bien en tant qu'habitué du salon. Il a d'ailleurs passé la matinée à trancher.
Le fromage de brebis, c'est une valeur sûre. Voilà. Les gens aiment bien ça. La brebis et la chèvre. C'est reste un fromage quand même qui est super sympa. Voilà. Très agréable. C'est bon en bouche, vous pouvez le goûter si vous voulez.
Allez, je termine en citant Oscar Wilde, hein, le seul moyen de se délivrer d'une tentation, c'est d'y céder. Alors moi, je retourne immédiatement au pavillon 3. Allez, bon appétit Fabienne.
J'avais déjà bien noté, Jean-Jacques, hier, en étant au Salon de l'agriculture, que c'était votre pavillon favori.
Europe 1, midi 39, vous écoutez Fabienne Lemoelle.
À l'étranger, c'est donc Bernie Sanders qui fait figure de favori pour l'instant dans la course pour décrocher l'investiture démocrate pour la présidentielle américaine. Nouvelle victoire cette nuit du sénateur nettement marqué à gauche dans la primaire. C'était au Nevada, Yasmina Katou.
Effectivement, une victoire très nette. 46% des voix selon les premiers résultats partiels. Très large avance sur ses rivaux Pete Buttigieg et Joe Biden. Il vient donc de marquer un point capital dans la course à la Maison-Blanche. Une victoire qui ne semble pas inquiéter Donald Trump qui a ironisé dans un tweet. On dirait que Bernie le fou fait de bons résultats. Pour autant, ces résultats partiels ne font pas de lui le favori. Il faut attendre le Super Tuesday, le Super Mardi, dans 10 jours. 14 États voteront en même temps. Ce scrutin sera décisif pour Sanders, explique Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis.
Cette victoire dans le Nevada veut dire que
les idées de Bernie Sanders sont en train d'infuser, notamment sur la question phare, l'assurance santé pour tous. Cette question de santé est importante pour ces électeurs spécifiquement qui sont des petits employés, en particulier dans la restauration. Mais ça ne sera pas forcément les questions qui intéresseront le reste des Américains dans d'autres États.
D'autant qu'un candidat de taille va faire son entrée dans la course électorale le 3 mars. Le milliardaire Michael Bloomberg, il a dépensé des millions de dollars pour sa campagne. En plus, le candidat a reçu le soutien de Clint Eastwood. Jusque-là, la star du cinéma soutenait Donald Trump. Le président devrait agir de façon plus correcte, sans tweeter et insulter les gens, a confié Clint Eastwood.
Merci beaucoup, Yasmine Akatou, et on attend effectivement le Super Tuesday, le 3 mars. Il n'y a sûrement qu'une star pour se permettre d'avoir 3h30 de retard pour ce concert. Les fans de Madonna ont dû attendre minuit pour voir leur idole monter sur scène au Grand Rex hier soir. Et vous allez l'entendre, il ne leur en voulait même pas, Angèle Châtelier.
Trois escaliers rouges relient la scène à la salle. Ils permettent à Madonna de s'asseoir parfois à côté de son public ou venir danser près de lui. Un tête-à-tête de 2h30, l'attente vaut le coup pour les fans.
On l'a jamais vu aussi proche, aussi fragile aussi, je crois. Il y a une certaine fragilité qu'on ne voyait pas dans les autres tournées. Et c'est vraiment exceptionnel.
Car à 61 ans, malgré ses douleurs, Madonna n'a rien perdu de sa superbe. Si sa voix est rendue juste grâce à un logiciel spécial, elle danse toujours avec autant de grâce et de panache. Son show est une pièce de théâtre avec costumes, tableaux et surtout engagement. On ne compte plus les messages politiques, de faux policiers qui arrêtent des danseurs, des drapeaux américains, des forêts qui brûlent projetées derrière elle sur des écrans. Elle met même en vente aux plus offrants un polaroïd d'elle pris sur le vif, adjugé à 2000 euros pour les reverser à une association. Ce Madame X Tour est une performance intime où la star se dévoile en tenue signée Jean-Paul Gaultier, qu'elle croise par hasard en venant s'asseoir dans la salle. Des dizaines de choristes et musiciens interprètent avec elle son dernier album. Pour les tubes, il fallait attendre la fin, comme lorsqu'elle interprète Frozen et que sur écran géant s'affiche sa fille qui danse comme si elle était en famille.
Voilà, la magie qui opère toujours. Il a fallu attendre 2h30 du matin, on a bien compris, Angèle Châtelier, pour entendre Frozen.
Le journal des sports.
Avec Christophe Lamarre, une autre musique. Mais quelle musique, Christophe, avec le 15 de France du rugby, bien sûr. Et puis la 26e journée, le PSG affronte Bordeaux ce soir avec l'envie de passer à autre chose.
Il faut tourner la page, changer de paysage, comme le chantait Claude Nougaro. Mais à Paris, passer de la Ligue des Champions au championnat n'est pas si simple. Entre les joueurs, l'entraîneur et le directeur sportif, il y a quelques dissonances et quelques couacs. Thomas Tuchel a modérément apprécié la fête qui a suivi l'anniversaire groupé d'Edison Cavani, Angel Di Maria et Mauro Icardi, quelques jours seulement après la défaite des Parisiens à Dortmund, et l'entraîneur l'a fait savoir hier en conférence de presse.
Nous ne sommes pas heureux avec cette image de la fête, comme j'ai dit. Pour moi, c'était très surpris. On a parlé ensemble avec l'équipe et ça reste interne. Et je ne vais pas arrêter de dire mon avis à ce groupe. Je ne vais pas donner des conseils au club. Ce n'est pas mon rôle.
Thomas Tuchel avec Julien Froment, PSG Bordeaux, coup d'envoi à 21h ce soir. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1. Deux autres rencontres ont lieu ce dimanche, Saint-Étienne-Reims à 15h et Rennes-Nîmes à 17h. Et puis la bonne opération de cette 26e journée, elle est à mettre au crédit de Lille qui a battu Toulouse 3-0. Les Lillois profitent du revers marseillais battu à domicile par Nantes pour revenir à 9 points de l'OM. Cela n'empêche pas l'entraîneur de Lille, Christophe Galtier, de rester prudent. La deuxième place est encore loin.
9 points, c'est beaucoup quand il n'y a pas de confrontation directe. Il reste 12 matchs, si je ne me trompe pas ça. Il reste 12 matchs sans confrontation directe. C'est très difficile à rattraper. Mais voilà, c'est une belle soirée avec 3 buts, 0 but encaissé. Voilà, avec des joueurs qui se sont exprimés, qui me semblent ont eu du plaisir à jouer ensemble.
Christophe Galtier avec Sébastien Boué.
Allez, on passe au rugby. Les lendemains de victoire sont toujours plus faciles pour le 15 de France qui se prend à rêver.
Ils ne sont plus qu'à 2 victoires Grand Chelem. Ils, bien sûr, ce sont les Bleus dans ce tournoi des Six Nations. Les Bleus qui affronteront l'Écosse le 8 mars et recevront l'Irlande le 14 mars. La victoire d'hier contre les Gallois a gonflé le moral des troupes. Il a mis surtout fin à beaucoup de frustration, selon le manager du 15 de France, Raphaël Ibanez.
Ce qui est certain, c'est que cette jeune équipe, elle a juste envie de vivre des choses. Voilà, il y a une forme à la fois de maîtrise parce qu'ils s'entraînent très dur, mais aussi de une forme d'insouciance aussi. Je pense que juste le match d'hier, en fait, a quand même effacé en un match 10 années de frustration, voilà, de frustration collective à travers toutes les générations, je pense.
Raphaël Ibanez avec Simon Rubin. Le championnat ne s'arrête pas pendant le tournoi, Fabienne. Deux rencontres au programme de cette 16e journée du top 14. Lyon reçoit le Racing 92 en ce moment. Le match vient de commencer. Et puis à 16h50, Toulouse recevra Montpellier. Et puis n'oubliez pas ce soir à partir de 20h, l'émission Face aux auditeurs sur Europe 1. L'ancien président du Racing Club de Toulon répondra aux questions des fans de rugby. Il s'agit bien sûr de Mourad Boudjelal.
Les championnats du monde de biathlon en Italie.
Et les Bleus peuvent encore garnir la corbeille à médailles. Deux courses à disputer aujourd'hui. Les filles viennent de s'élancer pour la masse start. Les garçons le feront à 15h, l'occasion pour la France de passer devant la Norvège au classement des médailles. La Coupe du Monde de ski alpin, le Super G féminin de Grand Montana tient toutes ses promesses. L'Italienne Federica Brignone est en tête à l'issue de la première manche, mais la Slovaque Petra Vlova est juste derrière à une demi-seconde avant le slalom, dont le départ sera donné à 13h30 cet après-midi.
Merci beaucoup Christophe Lamarre. Il nous reste à voir le temps que nous réserve ce dimanche. En un mot, c'est contrasté, Valérie Darmon.
Effectivement, Fabienne, le coup de vent est à son maximum sur le nord, Pas-de-Calais, Seine-Maritime, avec des rafales jusqu'à 120 km/h sur les caps et les côtes exposées de la côte d'Opale, et 90 à 100 dans les terres. Et c'est à partir de 15h que le vent va faiblir rapidement, ce qui contraste avec le reste du pays, où c'est toujours le printemps, notamment sur la moitié sud, tandis que sur les régions limitrophes de cette zone-là du nord de la France, jusque sur la Vendée, le Poitou, les Charentes, le bassin parisien, le Nord-Bourgogne, il fait gris sans espoir de voir le soleil cet après-midi. En revanche, vos thermomètres affichent 11 à Verdun au cœur de notre journée. 12 à La Rochelle, 13 à Charleville, 14 à Angoulême, 15 à Rodez, 16 à Nice, 17 à Bordeaux, 19 à Carcassonne, à Lyon et à Montpellier, 21 à Gap et Manosque, 22 à Avignon et à Paris tout de même 15 degrés. On est bien au-dessus des normales de saison.
Merci beaucoup Valérie Darmon. À suivre, c'est un homme en colère, mais aussi gagné par l'émotion que je reçois dans un instant face à la catastrophe humanitaire qui se déroule en Syrie, dans les régions d'Idleb, le médecin humanitaire Rafed Piti, qui a formé de nombreux soignants sur place.
Il est midi 48, le journal de la mi-journée se poursuit avec vous Fabienne Lemoyle et votre invité.
Nous avons tous vu cette vidéo cette semaine sur les réseaux sociaux qui a fait le tour du monde. La petite Salwa, syrienne à peine âgée de 3 ans, qui rit dans les bras de son père à chaque bombe qui tombe. Seule parade que son père a trouvée pour essayer d'épargner à Salwa la peur des bombardements. Ces bombardements, ces combats, ils ont jeté sur la route de l'exil 900 000 Syriens ces derniers jours qui fuient dans un froid glacial la région d'Idlib, considérée comme le dernier bastion opposé au régime syrien. Bonjour Raphaël Piti.
Bonjour.
Vous êtes médecin, réanimateur, spécialiste de la médecine humanitaire. Vous avez formé en Syrie de nombreux médecins avec votre association, l'Union des organisations de secours et de soins médicaux. Ça fait des années, et déjà à ce micro, il y a encore quelques mois, que vous dénoncez ce scénario des populations civiles syriennes prises au piège, bombardées. Hier, c'était à Alep et dans la Ghouta orientale. Aujourd'hui, c'est à Idlib. Quand vous voyez que le même scénario se répète, est-ce que cela vous désespère ?
D'une certaine manière, je pense que oui maintenant. Il y a ce drame humanitaire le plus important depuis la dernière guerre mondiale. Il y a 12 millions de personnes qui ne sont plus chez elles, 5 millions à l'extérieur, 7 millions déplacés à l'intérieur de la Syrie, plus de 500 000 morts, 80% du territoire qui a été détruit. On a tout utilisé contre cette population syrienne qui est véritablement martyrisée. Les armes chimiques, le napalm, le phosphore, le chlore, etc. Et ça n'a pas fait bouger d'un iota la communauté internationale qui regarde toujours ailleurs, qui parle, mais qui n'intervient pas.
Pourquoi? Et donc c'est terrible en même temps.
Parce qu'il n'y a pas la volonté de véritablement s'engager. Il y a un égoïsme individualiste très fort maintenant dans notre société d'aujourd'hui. On est intervenu en Syrie que pour lutter contre Daesh. Et encore, nous n'avons pas fait avec courage. Nous avons utilisé les forces kurdes qui étaient présentes, que nous avons lâchement abandonnées à la fin.
Vous qui êtes allé, Raphaël Piti, une trentaine de fois sur le terrain en Syrie, vous qui, au quotidien, je le sais, êtes en contact avec ces médecins, ces infirmières que vous avez formées, qui essaient de sauver des vies au péril de leur propre vie. Vous dites qu'il ne reste qu'un hôpital debout en ce moment dans la région d'Idlib, un seul hôpital.
Oui, absolument. Oui, absolument. C'est celui qui est à Bab el-Awa. C'est notre hôpital de l'USSM, construit en 2013 à l'intérieur d'un centre commercial qui était un duty-free. Donc, il est contre la frontière turque. Et de ce fait, il est pour l'instant un peu protégé. Mais nous avons déjà été bombardés dans cet hôpital il y a quelques années en arrière parce que nous pensions être protégés en étant là. Mais en vérité, les Russes avaient utilisé des missiles téléguidés qui avaient fait exploser l'hôpital. Et là, j'avais été très frappé par le courage de mes confrères syriens que nous avions réunis et qui ont dit « Non, non, on reste, on reconstruit et on reste. » J'ai une admiration sans borne pour le personnel soignant syrien, mais je le dis bien sans borne, qui sont les véritables héros depuis le début de l'affrontement à Idlib, c'est-à-dire depuis le mois d'avril, c'est 72 structures médicales qui ont été détruites. 72 structures médicales qui ont été détruites. Et là, ils sont en train de mettre en place des cliniques mobiles, mobile pour être évité, bien sûr, d'être eux-mêmes bombardés et mobile pour aller vers cette population déplacée.
Qu'est-ce que ces hommes et ces femmes qui sont sur le terrain en ce moment, aux côtés des civils, vous décrivent de la situation qu'ils vivent ?
Ils n'en peuvent plus. Il faut savoir qu'ils ont déjà été déplacés. Ils étaient à Alep, ils étaient à la Ghouta orientale, ils étaient à Dera. On leur a fait croire qu'il y aurait une zone qui serait une zone sécurisée. Et même l'ONU avait obtenu deux corridors humanitaires pour pouvoir les alimenter, leur apporter des soins, etc. Et en fin de compte, c'est pas vrai, c'était un piège. Et ce piège s'est refermé sur eux. Ils sont comme ça, plus de 3 millions, en situation de dépendance humanitaire totale et complète. Et l'épouvantable Poutine a refusé la prolongation au mois de décembre, et a refusé la prolongation de ces corridors humanitaires parce qu'il voulait les affamer, selon le processus qu'il a toujours usé en Syrie. Encercler, bombarder, détruire, terroriser et en fin de compte affamer. Et donc, il a fallu une opposition de la diplomatie occidentale pour faire en sorte qu'ils maintiennent ouverts ces deux corridors humanitaires. Mais la violence est telle que la distribution de la nourriture ne peut pas se faire. Et même si ces deux corridors sont ouverts, malheureusement, il est difficile de pouvoir atteindre toute cette population et ces 900 000 personnes déplacées.
Vous dites une chose terrible, Raphaël Pitti, vous dites on ne veut pas voir l'humain.
Non, on ne veut pas voir. Depuis 9 ans, on vous parle de géopolitique, de géostratégie, on vous parle de terroristes, mais on ne veut pas voir l'humain. On ne veut pas voir l'être humain, les personnes. Vous avez parlé de cette petite fille qui rit parce que son père essaye de la protéger de l'angoisse, en même temps du traumatisme que ça peut être pour des enfants de vivre dans cette situation-là. Mais moi, je voudrais que l'on montre aussi l'image de cette petite Iman qui est morte de froid dans les bras de son père qui a fait 3 km à pied pour aller jusqu'à l'hôpital d'Afrin et qui est arrivée morte. Je voudrais que les gens voient ce visage et comprennent que c'est une personne, que Iman n'était pas un enfant mort de froid. Iman, c'est une petite fille de 1 an et demi morte parce que nous avons laissé faire les choses. Et Iman, c'est une personne à qui on a enlevé sa vie, on a enlevé son bonheur, on a enlevé ses joies, on a enlevé le fait d'être un jour peut-être une maman, etc. À Iman, on l'a laissé mourir.
Ça fait des mois que vous alertez, Raphaël Pitti, des années même. Vous étiez encore en janvier à l'Élysée, vous avez vu Emmanuel Macron pour lui dire l'urgence à agir. On est au bord de la catastrophe humanitaire où quand on vous écoute, on y est déjà. Qu'est-ce qu'il faut dire de plus ?
Là, aujourd'hui, il faut savoir dénoncer le complice, celui qui permet tout ça. C'est Poutine. Et personne ne le dénonce.
Quand vous voyez cette semaine Emmanuel Macron et la chancelière allemande qui disent que la situation humanitaire est catastrophique à Idlib et qu'il faut rencontrer justement Vladimir Poutine et le président turc Erdogan pour en parler, est-ce que ça suffit ?
Non, ça suffira pas. Poutine se moque de tout le monde depuis 2015. Il n'a pas cessé avec Alep, avec la Ghouta, etc. Il n'a pas cessé de le faire. Maintenant, il faut passer aux actes. Il s'agit maintenant de mettre les sanctions qui sont nécessaires. Ça n'est plus de discuter avec Poutine. C'est de véritablement mettre en place des sanctions économiques qui sont très très fortes. Et se passer du gaz éventuellement et de l'énergie russe pour leur dire ça suffit. Ce n'est pas ce monde que nous voulons. Et à Damas, Assad n'a plus sa place non plus. Il n'est pas légitime pour avoir détruit son peuple. On ne peut plus considérer au niveau de l'ONU que le gouvernement de Damas est légitime. En quoi un gouvernement est-il légitime s'il n'est pas capable de protéger son peuple et si au contraire il le tue et le détruit ? En rien, il n'est pas légitime. Et il est temps, bien entendu, que la communauté internationale intervienne maintenant pour dire que cela cesse.
Une dernière question, Raphaël Pitti. Vous dites aussi, nous serons tous comptables de ce qui s'est passé en Syrie, de ce qui se passe en Syrie depuis 9 ans.
Oui, nous le sommes. L'abandon d'Alep a montré l'arrivée de la crise migratoire en 2015-2016, a bien montré que la communauté européenne n'était pas une communauté, mais un club d'affaires. Lorsqu'il a fallu se répartir ces réfugiés de guerre entre nous tous, personne ne les voulait. Personne ne les voulait. Et la France, pas plus que les autres, qui en fin de compte devaient en prendre 30 000 sur 1 million 2, nous ne les avons pas tous pris non plus. Et au contraire, nous avons fait monter le populisme et nous avons mal reçu ces gens qui fuyaient la guerre et à qui on n'offrait que de la violence. Puis-je rappeler simplement que l'Europe, la communauté européenne a reçu le prix Nobel de la paix ? Alors si nous avons reçu le prix Nobel de la paix, ne sommes-nous pas prêts éventuellement à offrir la paix à d'autres ? Et à nous impliquer pour que les autres puissent aussi à leur tour avoir la paix. Or, nous n'y participons pas. Et nous ne méritons pas d'avoir reçu ce prix Nobel de la paix. Vraiment, nous ne le méritons pas.
Je vous ai vu beaucoup ému ces derniers jours, Raphaël Pitti, par ce qui se passait en Syrie. Pourquoi cette émotion, vous qui alertez depuis tant d'années, soudain qui vous submerge ?
Parce que c'est 9 ans. 9 années que je vais régulièrement en Syrie, que je suis en contact avec mes collègues syriens, que je vois leur situation de souffrance. Je suis conseiller municipal de la ville de Metz et en charge des urgences sanitaires et sociales. Et je vois les migrants arriver ici et je vois leurs difficultés, la manière dont ils sont traités. Moi, j'ai confiance dans mon pays. Seulement, je ne me reconnais pas dans mon pays aujourd'hui. Je ne me reconnais pas dans les valeurs que nous voulons porter, nous les Français. Ce sont... Voilà, vous voyez... Je crois véritablement dans mon pays et je crois dans les valeurs que notre pays porte. Ce sont des valeurs d'humanité, ce sont des valeurs de justice, de liberté, d'égalité, de fraternité. Ce sont ces valeurs-là. Et aujourd'hui, les présidents que nous avons depuis Sarkozy, en passant par Hollande jusqu'à Macron, aujourd'hui ne portent pas ces valeurs qui sont les nôtres. Et donc, vraiment, je le dis à tous les Français, nous avons une certaine idée de la France et nous avons à porter ces valeurs humanistes dans le monde. Et ça me paraît important. Et aujourd'hui, je n'arrive pas à me reconnaître dans mon pays.
Merci beaucoup, Raphaël Pitti, pour ce cri. Une nouvelle fois aujourd'hui, on l'entend bien avec cette situation si difficile à Idlib. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi.
Merci à vous. Merci.